Bonjour Mathilde Diot.
Bonjour.
Et vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé « L'homme politique, moi j'en fais du compost ». On en parlera dans un deuxième temps. D'un mot pour commencer, cet observatoire des violences sexuelles en politique n'est pas une émanation de la puissance publique. C'est une instance que vous avez créée avec Alice Coffin, qui est élue...
On est cinq.
Voilà. Ouais. Enfin, notamment avec Élise Coffin, qui est élue au Conseil de Paris. Et donc, c'est bien ça. Ça n'est pas du tout un organisme.
Pas du tout.
Qui
on est des militantes féministes.
Ouais. Et vous avez vous-même été la collaboratrice de Daniel Obono et de François Ruffin, auparavant même de Noël Mamère. Daniel Obono et François Ruffin, députés de la France Insoumise. Est-ce que ça ne fait pas peser sur votre observatoire le soupçon, au fond peut-être légitime, d'un positionnement très politique?
Ça pourrait complètement. Et c'est un problème d'ailleurs. Donc nous sommes cinq au sein de cet observatoire. On s'est constitué précisément, et on est cinq à faire partie d'organisations politiques différentes. On s'est constitué
À gauche ou pas ?
Tout à gauche. Mais ouais. À l'origine, c'était aussi pour en fait sortir de nos organisations, parce qu'on se rendait bien compte qu'il allait falloir leur mettre un peu la pression à chacune d'elles pour les législatives. Et donc il nous a semblé important d'unir nos forces pour pouvoir aller leur mettre la pression justement à ces organisations, essentiellement de gauche, pour qu'elles fassent attention à, et à toutes les organisations aussi d'ailleurs, pour que les partis fassent attention aux personnes qu'elles investissaient. Pour les législatives, on a une vraie demande à ce que, si vous voulez, il y ait une autorité indépendante qui soit créée. C'est pas notre travail, normalement. Nous, on est des militantes féministes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui travaillent en politique travaillent dans des bonnes conditions. Mais après, en réalité, effectivement, je comprends les gens qui disent voilà, il y a des soupçons, etc. Après, c'est une façon de faire diversion aussi, c'est-à-dire que le gouvernement a tout intérêt à jeter un peu l'opprobre sur ce qu'on est en train de faire, alors que on le fait avec beaucoup de sincérité, on le fait aussi à destination des partis politiques de gauche. C'est un travail qu'on a fait chacune à destination des partis politiques de gauche. Et donc bon voilà, après il y a aussi vous savez, les féministes en général, on dit qu'elles sont toujours pilotées, comme si on était un peu incapable d'avoir nos propres opinions, et donc il y a une forme de misogynie dans ces accusations là qui il ne faut pas ignorer.
Alors la justice a fait savoir mercredi qu'elle n'ouvrait pas d'enquête contre le ministre des Solidarités, Damien Abad, accusé de viol par deux femmes, faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. C'est vous qui avez transmis les informations à la justice. Est-ce qu'il faut donc comprendre que vous n'avez pas transmis l'identité des deux femmes en question?
On ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas obligé de le faire, et la justice peut tout à fait décider d'ouvrir une enquête préliminaire. Elle le fait très souvent, notamment en matière de stupéfiants, sur la base de témoignages anonymes. Donc la décision du parquet est en réalité assez étonnante, ne serait-ce que parce que le parquet aurait pu s'adresser à nous pour avoir, déjà pour savoir comment vont les victimes, pour savoir comment on avait eu les témoignages et pour commencer, si vous voulez, un début d'appréciation du bien fondé d'ouvrir une enquête préliminaire ou non. Ça n'a pas été la démarche du parquet. Donc on trouve que cette réponse est un peu légère. On espère que... la réponse de ce parquet commence par « En l'état, nous n'ouvrirons pas d'enquête préliminaire ». Nous espérons que donc de nouveaux éléments pourront permettre au parquet de se raviser.
Mais est-ce que vous savez si les deux femmes qui donc accusent Damien Abad de viol souhaitent, elles, qu'une procédure judiciaire soit engagée? Je précise que pour l'une des deux, il y a déjà eu deux plaintes qui ont été classées sans suite. Hein.
Tout à fait. Pour l'autre personne, elle nous a adressé un message au moment de la réponse du parquet en nous disant que pour le moment, elle ne se voyait pas entamer une démarche douloureuse et longue, seule, face à un tourment en fait et un tumulte médiatique qui est très fort, que d'autres femmes ont subi. Je pense à Florence Porcel, qui était seule au début sur l'affaire PPDA, qui a été rejointe ensuite, mais qui a fait la démonstration d'un courage immense et qui a eu une force que pour l'instant Chloé, l'autre victime dont vous parlez, n'a pas envie de faire montrer.
Ouais. Alors, est-ce que tout ce tumulte-là, depuis plusieurs jours, aujourd'hui, ne leur fait pas plus de mal que de bien à ces deux femmes ?
Bah, écoutez, le tumulte, c'est de la faute de Damien Abad et de la faute du gouvernement qui a refusé de le débarquer. Le tumulte aurait cessé dès lors que Damien Abad aurait été débarqué. On ne peut pas accuser des femmes qui se présentent comme des victimes de générer un tumulte, si vous voulez. Ce serait quand même assez gonflé.
Alors, Damien Abad, vous voulez donc en faire du compost, mais pas seulement lui, puisque c'est ce que vous préconisez pour tous les hommes politiques. C'est le titre de votre ouvrage.
Mon ouvrage, c'est l'homme politique, ce ne sont pas les hommes politiques. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça reste...
L'homme politique, moi, j'en fais du compost. Voilà, vous dites dans ce livre... tout le mal que vous pensez des hommes politiques que vous avez côtoyé pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale. Et dès la deuxième page, vous faites le constat suivant, je vous cite, « De fait, le pouvoir s'incarne en un homme blanc, bourgeois, hétérosexuel, valide. » Je m'arrête un instant, ce qui n'est pas le cas de Damien Abad, qui est lourdement handicapé. « Et de culture catholique, les personnes racisées sont rares. » Tout d'abord, comment vous définissez une personne racisée? Est-ce qu'il y a une définition précise et officielle de la personne racisée?
Je ne sais pas si c'est une définition officielle, si le Larousse en a donné une, je ne la connais pas. Une personne racisée, c'est une personne qui s'inscrit dans un rapport de domination, dans une société qui place une hiérarchie entre les races. Et c'est donc une personne qui est victime de racisme. Et donc, voilà, c'est une personne non blanche.
Du compost, le compost, ce sont des déchets qu'on accumule, qu'on jette en général dans un bac prévu.
Qui permettent de faire de la très bonne terre.
Oui. Et qu'on met à fermenter.
Exactement.
Et ça fait une espèce d'engrais. Est-ce que vous pensez que...
Je voudrais revenir sur plusieurs choses dans votre présentation.
Oui.
À aucun moment, il y a toute une petite partie où je dis que je ne vais pas donner de nom, parce que propos.
Vous n'en donnez pas. On a l'impression que certains pourront s'y reconnaître, ou que l'on peut en reconnaître certains.
Et c'est assez utile parce que, en fait, en réalité, ce que j'essaie de démontrer, c'est un système. Par exemple, le fait que Damien Abad soit invalide, soit handicapé, n'est pas problématique. J'essaie de démontrer qu'il y a un archétype qui est la base de la représentation du pouvoir, qui finalement génère un peu de violence pour toutes les personnes qui s'en éloignent. Excusez-moi, mais vous voyez beaucoup de personnes en situation de handicap, à part Damien Abad, dans les lieux de pouvoir.
Ouais, très peu.
Il y en a très peu.
Discutable.
Donc, et en réalité, la façon avec laquelle le pouvoir s'incarne est très uniformisée. On a vu des femmes, par exemple, être moquées en disant, Elisabeth Borne, on le voit encore, en disant, elle est très froide, elle est un peu comme un mec, etc. On n'a pas beaucoup de choix dans l'incarnation du pouvoir encore aujourd'hui. Et donc, il est très souvent, les femmes sont obligées de se mouler aussi dans une façon, dans des codes, dans des méthodes politiques qui sont sculptées par une forme de virilité, une masculinité qui a pu infuser toute une façon de se comporter en politique.
Les femmes qui arrivent au pouvoir, au fond, c'est parce qu'elles se comportent comme des hommes.
Pas
c'est ça
du
que vous
tout. Il y en a certaines. Regardez Ségolène Royal. Elle a su trouver son chemin qui n'était pas exactement.
Oui, elle n'est pas arrivée
celui...
à proprement parler au pouvoir.
Non, mais c'est qui n'est pas celui de. Elle a été ministre quand même.
Oui, mais enfin.
Il y a évidemment des personnes qui s'éloignent de ça. En fait, je ne prends pas une généralité. J'essaie d'expliquer des mécanismes et un système. Il n'y a pas de. Bref.
Mais,
je ne sais pas si c'est très clair.
Non, mais. Vous dites que vous avez pris le parti de ne pas donner de nom. Vous dites que quand on pense à un leader politique, on continue d'imaginer un homme blanc, cisgenre. Alors cisgenre, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Je crois que c'est quand on accepte son identité de naissance, c'est ça, le cisgenre.
Ouais, hein,
voilà. Cisgenre, bourgeois, tribun. Et hétérosexuel.
Oui.
Le
discours, c'est quelque chose d'intéressant.
Est-ce que ça ne serait pas le portrait de Jean-Luc Mélenchon, ça?
Ah, ça peut complètement. Mais en fait, si vous voulez, ce que je décris et les mécanismes que je décris d'incarnation du pouvoir traversent l'ensemble de la sphère politique. Et c'est encore la même chose. Enfin, c'est valorisé partout que d'arriver en étant. Un homme blanc très sûr de soi, etc. Il y a des mécanismes en fait de reconnaissance de ce que doit être le pouvoir qui sont transpartis. Après, ce que je veux dire de façon plus importante,
en 5 secondes.
Ouais. Écoutez, c'est que ça a des conséquences et qu'il y a de la violence et de la domination dans le monde politique et qu'il faut s'en débarrasser à tout prix.
Merci Mathilde Viau. Bonne journée.
Bonne journée.